Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Hugues Rein. Bonjour.
Bonjour. Oui, on peut dire Hugues Rein tout simplement.
Voilà, et vous êtes gynécologue obstétricien et vous êtes ici pour nous annoncer une soirée vendredi 20 qui aura lieu.
Donc à l'Aube, le centre de l'Aube, c'est à Piégros-Laclastre. Voilà. Je peux donner le numéro de téléphone tout de suite pour ceux qui veulent, 04 75 40 03 24. La permanence est ouverte de 12h30 à 2h. Hein. On est une petite structure. Et autrement, il y a un site aussi, aube-association au singulier, @wanadoo.fr. Je répète, aube-association, @wanadoo.fr.
Alors, c'est une conférence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la teneur, hein? Je crois que ça a lieu avec les FARC en Colombie.
Voilà. Alors, en fait, ça fait 3 ans que je vais en Colombie pour des raisons qu'on va peut-être voir. Mais j'y suis allé d'abord pour une formation, on va dire, pour la faculté de sciences humaines, une formation sur la grossesse, l'accouchement. Et en fait, oui, la dernière fois que j'y suis allé, donc pour la 3e fois consécutive, j'ai eu la chance de rencontrer les FARC. Et donc, cette expérience que j'ai trouvée très intéressante parce qu'elle m'a fait revoir toutes mes idées sur les FARC. Et donc, je voulais la partager. Donc, on a fait un montage vidéo avec des images et puis des petits bouts de films que j'avais pu faire de façon un peu simple, mais qui permettent de se rendre compte un petit peu des choses, de ce qui se passe sur place.
Pourquoi cet intérêt d'aller en Colombie sous l'égide des FARC et du gouvernement aussi, je crois?
Alors en fait, c'est parce que c'est tout bête. Hein, j'ai rencontré un peu par hasard en France une Colombienne qui est mariée à un ami français. Et cette femme, elle est professeure, elle est une professeure connue et reconnue en Colombie à la faculté de l'université, à l'université industrielle de Santander, pardon, université industrielle de Santander, et c'est elle qui dirige la recherche dans ce poste de la faculté. Et elle savait un petit peu ce que je faisais sur la grossesse, l'accouchement, la parentalité, et elle m'a demandé de faire une formation. Ça a commencé comme ça, une première formation il y a 3 ans.
Alors pourquoi pourquoi il y a eu cette relation entre vous et des représentants des FARC?
Alors, au départ, c'est pas les FARC, c'est la faculté. C'est-à-dire que c'est cette université. On va voir plus tard qu'elle est en effet, elle a une certaine sympathie pour les FARC, mais ça, c'est plus tard. Donc, ça, la deuxième année, j'y vais parce que cette fois-ci, c'est la faculté de médecine qui me demande de venir. En fait, il y a eu quelques émissaires la première année qui sont venus à la faculté de sciences humaines, qui ont trouvé peut-être que ce que je disais d'un certain intérêt pour la fac de médecine. Et ils m'ont demandé l'année d'après de venir à la faculté de médecine. Et là, ça tombe à peu près au même temps qu'ils ont signé la paix avec les FARC, cette fois c'est signé, et surtout qu'ils ont dans l'idée de vraiment de travailler pour la paix. Et il se trouve que ce que je propose va tout à fait dans ce sens-là, puisque c'est créer une génération de la paix à partir des femmes enceintes, à partir des couples, des femmes enceintes, des enfants. Et donc, ça tombe pile poil pour eux. Et donc, ils profitent de ma formation pour lancer ce mouvement d'un point de vue politique avec le gouverneur, avec la secrétaire de santé, etc. Donc, tout un tas d'huile du coin. Voilà. Donc, ça, c'était il y a l'année dernière. Et puis, cette année, ils m'ont demandé de revenir. Et cette fois-ci, au dernier moment, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour aller rencontrer les FARC, et en particulier rencontrer les femmes qui attendaient des enfants ou qui étaient en désir d'enfant, pour un petit peu leur parler de ce travail qu'on faisait de mise en paix pendant la grossesse et pendant toute cette période de la parentalité, pour faire une génération de la paix, autrement dit.
Le contexte actuellement en Colombie s'est beaucoup calmé autour de ces conflits qui perduraient depuis des décennies entre le gouvernement et les FARC. Quel est le contexte actuel? Est-ce que justement il y a des rapprochements qui s'opèrent, et est-ce que cette approche des femmes enceintes est une des conséquences?
Oui, alors moi, je ne me pose pas du tout en politicien, je ne connais pas grand-chose à la politique. Donc moi, je dis ce que j'ai vu sur place et ce que j'ai compris. Et il se trouve que j'ai eu la chance dans ce séjour de pouvoir rencontrer le commandant. Donc c'est le deuxième plus grand camp FARC en Colombie, qui est dans l'Amazonie d'ailleurs, en Amazonie. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir discuter trois fois avec lui, qui nous a donné tout son temps. Et donc à travers ce qu'il a dit, j'ai pu un peu comprendre le contexte, tout au moins par sa bouche, et donc c'est de ça dont je peux témoigner, et non pas d'une analyse politique de la situation des FARC aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup touché, j'allais dire, c'est vraiment leur désir de paix. Leur désir de paix. L'ONU a dit qu'ils n'ont absolument pas triché, ils ont rendu toutes les armes, ils ont tout laissé. On le verra d'ailleurs, on voit les endroits même où ont été brûlés tous leurs habits militaires, on voit les endroits où ont été enfermés les armes par l'ONU, dans des grands containers, on le voit dans le petit film qu'on a fait. Donc ce qui m'a beaucoup touché, c'était vraiment leur désir de paix, leur désir d'apaisement, et aussi l'idée que finalement, la vie en communauté, eh bien, c'est une belle chose. Et donc ils voudraient vivre selon d'autres valeurs que les valeurs de la société habituelle, qui est assez tournée vers l'ego, en Colombie aussi, et qui voudrait donc tenir plus compte de l'autre. Donc il y a des idées très, très intéressantes, pas forcément faciles à mettre en place, hein, on le sait, mais des idées qui sont très intéressantes du point de vue d'une nouvelle façon de vivre ensemble.
Et donc de là découle une idée, celle de la génération de la paix. Alors, est-ce que vous pouvez débattre, enfin, nous développer un peu cette idée ?
Oui, alors cette idée, elle est... Bon, en même temps, il y a pas mal de gens qui ont parlé de s'occuper vraiment du tout début de la vie pour essayer d'inciter à la paix. Je vais parler plus de ce que je sens moi par rapport à ça, et puis après on reviendra sur les FARC peut-être. Ce que je pense, c'est que pendant la grossesse, l'enfant vit dans le monde de paix. Il est dans la paix, il est dans ce que certains ont appelé la totalité originelle, c'est le terme qu'utilisait le professeur Delassus. Moi j'appelle ça la complétude, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui goûte le plaisir, la fusion, l'amour, la paix. Donc toutes ces qualités, nous les avons tous vécues dans la vie intra-utérine. C'est comme un espèce de trésor avec lequel on est arrivé sur Terre et qui a été mis à mal sur Terre, parce que le monde actuel n'est pas ça. Mais à partir de là, ce qu'on essaie de faire, c'est que même si cet enfant rentre dans un monde qui n'est plus le monde de cette complétude en arrivant sur Terre, on va essayer de lui faire vivre de temps en temps, d'apprendre aux parents à lui faire vivre de temps en temps, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus. Mais au moins ça fait qu'il garde espoir que c'est possible d'avoir la paix, d'avoir ces attributs de la complétude sur Terre. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que ce qui se passe en Colombie, c'est qu'ils ont compris ça. Ils ont compris ça et ils ont compris que justement, en s'occupant vraiment des femmes enceintes, des enfants en bas âge et tout, il y avait vraiment un travail de fond à faire, peut-être sur une longue période, mais un travail de fond à faire. La preuve en est, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte cette année qu'il y avait eu tout un mouvement dont on vient de parler ensemble, la génération de la paix, mais qu'il y en avait deux autres et que tout ça était complémentaire et ils se sont reliés ensemble. C'était ce qu'on appelle les 1000 premiers jours de la vie. Donc cette année, on a plus parlé des 1000 premiers jours de la vie. Les 1000 premiers jours de la vie, c'est quoi ? C'est la durée de la grossesse plus les deux ans, la première et la deuxième année. Donc ils prennent, si vous voulez, le début de la grossesse plus et toute la grossesse, plus les deux premières années de la vie, et dans ces 1000 jours, ils vont faire tout l'effort nécessaire pour essayer de faire goûter la paix à cet enfant. Dans la vie intra-utérine, ils la goûtent, mais on peut améliorer un peu les choses parce que selon la façon dont se passe la grossesse, et puis surtout s'occuper de ces enfants dans les deux premières années de la vie. Et puis un troisième mouvement encore plus grand qui s'est mis avec ça, c'est qu'on appelle en espagnol de cero a siempre, ce qui veut dire de zéro, du démarrage de la grossesse a siempre, à toujours. Et ça, c'est aussi extrêmement... Ça va dans le même sens, si vous voulez. Et je crois qu'il y a eu en octobre une réunion à Paris de Colombiens qui sont venus expliquer ça dans une faculté dont j'ai oublié le nom. Donc il y a eu une rencontre à Paris autour de ces sujets.
Et par rapport à cette initiative, concrètement, on peut résumer ça comment par rapport à la population et à ces femmes enceintes ? Il y a eu des créations de centres, comment ça s'opère ?
Alors là, vous touchez le problème le plus difficile, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de développer, c'est beau comme ça, sur le papier, en pratique, c'est très compliqué. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai compris que c'était en même temps un peu utopiste et en même temps passionnant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. Donc on va essayer de faire le maximum, mais je crois qu'en effet, vous soulevez le vrai problème, c'est que comment on va faire ? Alors justement, la première année, j'ai parlé directement aux femmes enceintes. Cette année, j'ai parlé à des référents, j'ai formé des référents. Enfin, j'ai essayé de former des référents avec le temps que j'avais. Et donc, ça veut dire que déjà, les choses deviennent plus larges. Il y a une zone d'action beaucoup plus large. Et surtout, et ça, c'est ça, ça me permet de dire ça, surtout, j'ai eu la chance de rencontrer une association, alors c'est quand même une association à but lucratif, hein, c'est-à-dire que c'est un peu de l'entreprise, mais en même temps, c'est des gens qui sont très sérieux dans l'éthique et eux qui développent ce qu'ils appellent la stimulation adéquate dans la petite enfance. La stimulation adéquate, c'est quoi ? C'est essayer de proposer à l'enfant un certain nombre d'activités tout à fait adapté à sa maturité pour que cette maturité puisse avancer et justement participer à la paix. Et donc, il se trouve que le hasard des choses, mais est-ce le hasard, a fait que je suis maintenant lié à ces gens-là et que je vais donc aussi aller régulièrement en Colombie pour participer à cette association qui s'appelle, ça y est, Tierra Encanto, la terre enchantée, en gros, ou la terre enchantante, enfin, ça dépend comment on traduit. Il y a un jeu de mots en espagnol que je ne saurais pas traduire. Et donc, voilà. Et ça va permettre surtout, pour répondre à votre question plus précisément, ça va permettre de suivre ces référents et d'avoir un suivi avec les référents. Parce que tout à fait, à la fin de la formation et même avant, je m'étais dit, mais s'il n'y a pas de suivi, c'est utopiste, quoi. Et donc, on a proposé à ces gens-là un suivi au sein de cette structure, ou bien j'interviendrai quelquefois par vidéotransmission, ou bien en direct, et où de toute façon, j'ai sur place deux personnes qui sont très liées à tout ce que je fais et qui peuvent transmettre ce que j'ai à leur dire.
Par rapport à cette démarche, est-ce qu'il y a des organismes tels que l'ONU qui chapeautent un peu cette initiative ? Est-ce qu'il y a un soutien international par rapport à cette action ?
Alors là, je ne suis pas assez connaisseur pour vous donner des choses précises, mais je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, puisque je suis sûr, c'est que cette année, c'était l'année, il y avait une année France-Colombie, on va dire, non pas dans le sport, mais dans les échanges, et que j'ai aperçu, j'ai essayé d'y participer un peu, mais bon, j'avais pas franchement le temps, mais j'ai vu qu'il y avait quand même des actions avec des instances internationales qui essayaient d'aider, donc oui, mais je ne peux pas vous répondre précisément comment. Ça, c'est parce que je ne suis pas assez au courant. Mais c'est vraisemblablement l'ONU, de toute façon, est très mouillée là-dedans. Les droits de l'homme aussi. J'ai rencontré chez les FARC une personne qui est responsable des droits de l'homme. Donc voilà, il y a quand même des instances internationales. Après, comment ça s'articule réellement ? Bon, ça, c'est peut-être plus compliqué.
Au Jardin de l'Aube, quelles seront les personnes pour vous qui seraient intéressées de venir vous écouter sur ce sujet ?
Bon, écoutez, je crois que d'abord, tous ceux qui s'intéressent un petit peu aux problèmes internationaux et puis surtout aux témoignages sur le terrain, ben, ça peut les intéresser parce que je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un politicien, mais je suis un homme, un humain qui a vu des choses et qui va essayer de les transmettre de façon la plus neutre à travers un montage audio-vidéo qu'on a fait et puis à travers mon propre témoignage et la réponse aux questions. Donc, il y a les gens qui sont intéressés un peu à ce qui se passe dans les autres coins du monde. Et puis, il y a aussi l'idée que comment on peut essayer de répondre à cette question fondamentale de la génération de la paix, et je peux éventuellement répondre là-dessus aussi aux questions, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, je pense.
Et puis, une fois sur place, les possibilités pour œuvrer sont difficiles quand même, malgré tout.
Oui, alors les choses...
Vous parliez d'utopie, donc je peux deviner que tout est compliqué
alors,
pour gérer.
On va prendre le côté d'abord, le côté génération de la paix, non pas dirigé directement que vers les FARC, mais vers la population. En fait, c'est une population qui est un peu en difficulté parce qu'il y a des niveaux sociaux très bas. Et puis, j'allais dire, malgré tous les efforts et toute la connaissance médicale qu'ils ont, il y a beaucoup de difficultés à suivre les femmes enceintes de façon très, très proche, ce qui fait qu'il y a une mortalité périnatale beaucoup plus importante que dans nos pays. Pas du tout par méconnaissance, parce qu'ils sont très, très calés, hein, mais parce qu'il y a des circuits, les réseaux qui ne sont pas tout à fait en place. C'est une nation jeune et les réseaux ne sont pas tout à fait en place. Donc, il y a déjà un problème, j'allais dire, simplement de survie et de vie et de suivi médical qui n'est pas très simple. Après, pour le reste, on fait comme on peut. Je veux dire, vous savez, on démarre à un endroit et puis on va essayer que ça se fasse. Et je crois que là, il faut avoir beaucoup d'humilité, mais je pense que ça, c'est une qualité qui est indispensable. Et essayer de faire ce qu'on peut en sachant que ça fera sa route après nous, avec ceux qui sont là, mais que ça ne va pas être très simple. Après, il y a une autre question qui va être un peu différente, c'est par rapport au FARC, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, comme vous voulez.
On peut en parler maintenant et déjà, on peut commencer même par expliquer ce que veut dire les FARC.
Alors c'était le Front Armé Révolutionnaire Colombien, voilà. Et c'était le Front Armé Révolutionnaire Colombien.
Et puis on peut peut-être résumer vaguement ce qu'il revendiquait, tout simplement.
Oui, alors justement, là j'espérais bien avoir un petit résumé, j'ai un résumé écrit de leur histoire, mais j'avais visité un petit musée, je voulais faire une vidéo sur ce musée, j'ai pas pu le faire, mais j'espère qu'on va me l'envoyer. Mais en fait, tout est parti du fait que... C'est un petit peu comme au moment de la conquête de l'Amérique, si vous voulez. La Colombie était un pays très très vaste et les gens se sont installés là où ils voulaient. Et donc il n'y avait pas de possession de terre au départ. Chacun mettait les piquets où il voulait. Il disait là c'est chez moi et il cultivait. Et puis il y a eu un moment où l'État s'est formé et l'État a trouvé que ces terres étaient riches et que vu que les terres étaient riches, ils ont voulu les reprendre. Et donc ils ont mis dehors les paysans. Et donc les paysans se sont retrouvés sans terre. Et ils demandaient une seule chose au départ, c'est de la terre. Et on leur a refusé, bref, les pouvoirs sont dit, ce sont des gens pas très intéressants, on va finir par les dompter. Et puis, eux, ils se sont groupés. De plus en plus de paysans étaient comme ça, éloignés de leurs terres. Enfin, on leur volait leurs terres, autrement dit. Et donc, ils se sont petit à petit armés. Alors après, l'histoire, je la connais pas. Il y a eu bien sûr, il fallait survivre. Donc, il y a eu des contacts avec les narcotrafiquants, avec tout ça. Je sais pas trop comment ça s'est organisé. C'est pas mon sujet. Moi, je rentre pas là-dedans. Mais ils sont sûrement pas tout blancs. Mais moi, ce que j'ai rencontré, c'est quand même des hommes de qualité. C'est ça que je veux dire. Et qui sont en grande difficulté. Il ne faut pas s'imaginer que c'est simple. Donc, je suis allé pour parler aux femmes enceintes. Il n'y en avait pas énormément parce qu'ils sont en train de tout réorganiser. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'ils sont, si vous voulez, il faut se mettre dans la peau de ces gens-là qui ont vécu 50 ans dans la jungle. Vivre dans la jungle, c'est vivre avec très peu de choses. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ou ils l'ont perdue, ou ils n'en ont jamais eu. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un métier. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une banque, ils ne savent pas ce que c'est que l'argent, et donc il faut voir ce que c'est. 50 ans dans la jungle, on vous dit maintenant, il va falloir bosser, faire des... Donc ça demande une réadaptation incroyable. Et donc là, il y a un vrai problème, et ils sont très courageux. Dans les vidéos qu'on va voir, on voit qu'ils bossent comme des fous. Pourquoi ? Parce qu'à partir du 1er octobre, qui a déjà passé donc, l'État a arrêté de leur donner de quoi manger. Donc, à partir du 1er octobre, ils doivent être autonomes et donc ils ont cultivé énormément. Bon, c'est des paysans, hein, je pense qu'ils devaient savoir faire. Mais quand on voit la quantité de cultures qu'ils ont mis en route avec le petit nombre quand même qui sont comparativement au terrain, on est quand même scotché de leur énergie. Mais ils sont en grand danger parce qu'il y a des gens qui veulent la guerre. Il y a des gens qui veulent les détruire et donc ils sont en danger. Et même quand on est parti tous du camp de FARC, on s'est dit, mais on peut pas enlever cette idée qu'il ne serait pas impossible que tout d'un coup, une faction un peu agressive de l'armée vienne les détruire en disant « on sait où ils sont, cette fois on leur fait la peau, et puis on dira qu'il y a une bavure, un truc, un machin, et ça sera réglé ». Je pense que la venue du pape et le fait qu'il y ait eu les projecteurs dessus font que ce danger s'est un peu éloigné, mais je ne pense qu'il n'est pas totalement éloigné, parce qu'il y a des gens qui veulent leur peau.
Et par rapport à cette conférence qui aura lieu donc vendredi à Piégros-Laglastre, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en espérez en retour ?
Moi j'aime bien échanger avec les personnes, et puis je vous disais ce qui m'a moi touché, c'est l'idée que je me faisais des FARC avant d'y aller et l'idée que je m'en fais maintenant quand j'ai vu de mes yeux, et du coup ça m'a amené une réflexion que j'ai depuis un certain temps, c'est que finalement les idées qu'on a, que j'ai, sont parfois pas les miennes mais celles que j'ai entendues dans différents médias peut-être, par des différentes personnes. Et puis, j'ai remélangé tout ça en moi pour dire, voilà l'idée de Ugraine. Mais en fait, ce n'est pas du tout l'idée d'Ugraine. C'est Ugraine a fait un pot pourri avec un certain nombre d'informations qui lui sont arrivées, qu'il n'a absolument pas contrôlées. Enfin, je dis, quand ça se passe automatiquement. Et donc, j'ai de plus en plus de recul sur ces choses qui sont des espèces de pensées communes, mais construites par on ne sait qui. Et donc, c'est peut-être là-dessus que je voudrais insister d'un point de vue intérêt pour la vie intérieure et pour l'éthique intérieure. Et j'essaye en moi de guetter ces instant où je serai capable de défendre des idées qui ne sont pas les miennes et que je n'ai même pas pesé et que je ne sais même pas d'où elles viennent.
Eh bien, Ugraine, l'actualité oblige. Nous allons écourter un peu cette interview et c'est bien dommage, il y a tellement à dire. Est-ce qu'il y a... Vous avez cité un site internet en début d'émission, mais est-ce qu'on peut trouver une information plus large concernant cette action ?
Alors, pour l'instant, non, parce que si vous voulez, en fait, on a décidé ça assez dernièrement. Et donc, là, j'étais dans le montage de cette vidéo, donc qui dure 23 minutes. Et je vais, le son étant pas très bon, parce que j'avais pas une vraie caméra professionnelle, mais j'avais ce que je pouvais, je vais parler en même temps par moment. Enfin, on a fait un montage le mieux possible. Et je remercie Patrick Viron, que sûrement beaucoup connaissent, qui a fait de très beaux films et qui est un cinéaste et qui m'a beaucoup aidé. Mais lui, c'est pas lui qui a fait les images. Il a fait ce qu'il a pu avec ce que je lui ai amené. Mais il m'a beaucoup aidé, donc on a travaillé 2 jours, j'ai terminé hier. Donc si vous voulez, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup plus pour l'instant. Mais vraisemblablement, je mettrai ça sur mon blog. Enfin, j'ai un blog qui est Ugren, hein. Ugren, on tape ça, on trouve. Et puis sur ce blog, on trouve les liens sur Facebook où je parle aussi de la Colombie, je parle de ce qui s'est passé avec les FARC. Donc ça, on peut très bien le retrouver. Et puis j'ai aussi une chaîne YouTube, mais tout ça vous trouverez tout ça sur mon blog, où on peut aller voir un certain nombre de choses que je peux dire. J'ai encore rien mis sur l'expérience colombienne, mais j'ai mis un certain nombre d'informations de différents types sur cette chaîne YouTube.
Et concernant la Drôme, vous prévoyez d'autres conférences ou d'autres rencontres ?
Alors, en fait, ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle les soirées de l'aube. Donc, les soirées de l'aube, bah, écoutez, grâce à RDWA, on en a annoncé un certain nombre ici par le passé. On essaye toujours de trouver un sujet qui a une raison d'être. Donc, quelquefois, il y a des. Bah, par exemple, on a diffusé les films de Patrick Viron il y a pas si longtemps. Le film qu'il avait fait sur le Cheikh Bentounes, qui a fait l'objet après d'une conversation. Après, comme ça, en désordre, on a fait venir aussi un ami qui est architecte et qui a parlé de la cathédrale de Chartres. C'est un passionné de l'architecture. Il nous a parlé du portail ouest, je ne me rappelle plus, de la cathédrale de Chartres. C'est quelqu'un qui connaît très, très bien tous ces sujets. Donc, voilà. Donc, on a des sujets très, très différents les uns des autres en fonction des propositions que je reçois ou bien des idées que j'ai ou que nous avons.
Est-ce que vous aviez donné l'heure tout à l'heure ?
C'est donc le vendredi 20 à 20h.
Voilà. Il y aura un petit...
Après, on boira un petit coup ensemble, parce qu'on fait toujours ça, hein, nous. C'est-à-dire qu'on fait la conférence, etc., ou la projection. Et puis ensuite, pour que ce soit plus convivial, il y a un moment où on échange dans la salle déjà. Et puis après, à quelques mètres de là, on sert toujours quelque chose à boire d'un peu sympathique. Et donc, on passe un moment un peu plus détendu. Enfin, pas plus détendu, mais où l'échange est plus personnalisé avec les différents intervenants et les différentes personnes qui sont là.
Eh bien, docteur Ugren, merci d'être venu nous parler de cette génération de la paix.
Merci à vous.
Interview.
Bonne soirée.
Interview.
Ok, de bonne.
L'interview du jour.